Un sujet bien connu et naturellement qu'on aborde quelque part le sujet de ce qu'on explore ici de manière différente, sous différents angles on peut dire, mais quelque part le sujet est toujours le même. Et donc un angle ce matin qui peut peut-être éclairer certains points. Un des aspects est l'attitude qu'on développe. Mais je vais commencer par donner quelques éléments qui ont peut-être été déjà donnés, mais que j'aimerais redécouvrir ce matin. Ce terme de satipatthana, qui est un terme extrêmement important, puisque le manuel de la méditation est un des seuls, est intitulé le satipatthana. Et sati, ben vous savez bien le sens de ce mot, l'attention, sati, se rappeler d'être attentif, se remémorer. Donc il y a cette dimension de mémoire, mémoriser, mais pas tant le passé que d'être situé, de se rappeler, de revenir au présent. Et puis patana vient du terme upadana, qui signifie demeurer à proximité, rester très proche. Proche de quoi ? Ben de l'expérience, toute expérience. Et donc ce terme de satipatthana, c'est naturellement ce développement, cet établissement de l'attention proche de toute expérience, quelle qu'elle soit. Quelles sont ces expériences ? Eh bien, naturellement, on les connaît, puisqu'on a été ici depuis plusieurs jours, donc ce contact avec les cinq sens physiques. Et puis, tout ce qui se situe dans notre perspective de ce qu'on nomme souvent le mental, mais c'est plutôt l'esprit dans ce registre. Le mental est assez réducteur. Et donc, il y a tous les états mentaux, les pensées, les émotions qu'on peut connaître. Donc, tout ce qu'on peut connaître de manière immédiate. États mentaux aussi du calme, de l'agitation, tranquillité, l'énergie dont on a parlé. L'investigation est un état mental aussi, et la somnolence, le doute. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de facteurs mentaux. Et ceci, nous allons naturellement les vivre au contact de ce qui se présente d'instant en instant. Maintenant, il y a un autre terme que j'aimerais explorer avec vous, c'est ce terme de bhavana, que je crois Sandrine a mentionné, qui est le fait de cultiver. Donc cultiver signifie développer. Donc il y a naturellement ici une activité, si vous voulez, parce qu'on souvent on pense qu'on est très passif. En fait, on n'est pas du tout passif, on est vraiment dans une dimension de développer des qualités méditatives, faire fructifier, faire croître même. Donc ce terme de bhavana, il peut s'appliquer à metta bhavana, cultiver metta par exemple. Vipassana bhavana, donc il y a vraiment cette dimension de cultiver des qualités. Samatha, par exemple, bhavana, qui est le calme mental. Et donc le terme de méditation pour bhavana est vraiment trompeur. Il est occidental en réalité, dans le sens qu'il y a une action là de réfléchir. Quand on dit je vais méditer sur un sujet, c'est de l'ordre de la réflexion. Et ici, il ne s'agit pas tant de réfléchir ou penser profondément à un sujet que de naturellement être au contact d'une façon beaucoup plus simple. Donc cette attention, elle est dépouillée. Et j'aime beaucoup ce mot de dépouillée. Souvent, il y a des personnes qui utilisent le terme de nu. Une attention nue, dans le sens en anglais de bare. Mais le terme de dépouiller me va mieux parce qu'il y a quelque part une dimension de simplicité absolue. Donc, lorsqu'on parle de cette dimension de bhavana, cultiver une attitude et une attention particulière, eh bien, on a un contexte culturel dans lequel le Bouddha historique a utilisé ce terme. C'était naturellement un spécialiste du Pali qui a redécouvert ce mot de bhavana. Et pourquoi il était choisi par le Bouddha, ce terme spécifiquement ? Eh bien, il a retrouvé que ce terme avait été choisi par le Bouddha dans le sens de cultiver, dans le sens agricole. Préparer le sol, le terrain, planter des graines, ce qu'on veut planter. Et l'accent mis sur l'agriculture est vraiment tout à fait propice, en fait, dans le nord de l'Inde à l'époque, vous imaginez, 2600 ans en arrière, donc il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de nature, de champs. Et donc, ce mot a été choisi pour parler de la méditation dans le sens de cultiver son champ intérieur, au sens agricole, mais de le prendre vraiment d'une façon extrêmement riche et terreux. Dans notre terre, est-ce qu'on cultive d'une manière très claire, d'instant en instant, c'est notre propre terre, notre jardin intérieur. Et naturellement, cette dimension-là, elle est très concrète. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, elle est très concrète et très incarnée en réalité. Donc, il y a un potentiel. Peu importe comment est ce terrain, on peut, j'y pensais ce matin, je me suis dit, bon, il y a tellement de régions où les terrains manquent d'eau, hein. Vraiment la terre manque d'eau, on sent bien ceci ici. Et il y a naturellement toute une dimension d'un terrain qui peut être en jachère ou endommagé. Eh bien, les conditions peuvent changer et naturellement, on peut continuer de le cultiver et il est amélioré, il est enrichi. Donc il y a un développement dans le sens d'une récolte qui peut un jour porter des fruits en nous-mêmes. J'espère que vous le ressentez tranquillement, progressivement. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Et puis maintenant, cette dimension de justement découvrir notre existence au niveau des sens où la vie quelque part est plus forte que les pensées. La vie est plus forte dans le sens que ce travail de Sati nous ramène sur la voie de la perception de la présence et cette perception qui ne s'égare pas. On a parlé un petit peu de Papancha, hein, ce terme de Papancha qui fait qu'il y a des fabrications mentales et puis qu'on les cultive et qu'on s'éloigne, et c'est ce qu'on fait, nous, d'une manière complètement habituelle, fréquente, et c'est là où on vit la plupart du temps. Ici, toute la dimension de Sati, demeurer à proximité, c'est justement l'inverse. D'être intéressé et curieux, de rester à proximité. Donc il y a là une dimension de cultiver une attention qui ne s'égare pas. Et ça demande du soin, ça demande de la curiosité, ça demande une certaine énergie, expérience de ce que je perçois ici et maintenant, quel que soit le phénomène. On peut parler de phénomène, nous on utilise souvent le terme d'expérience, mais expérience c'est quelque part phénomène, le phénomène présent. Et donc de rester dans une certaine curiosité pour pouvoir percevoir les expériences sous un nouveau trait, un autre angle, un angle qui est basé dans le vécu, le ressenti, et surtout cette attention dépouillée implique que cette attention précède l'interprétation. Et c'est ça qu'on explore encore et encore. C'est-à-dire avant qu'on mette de la description, avant qu'on mette l'interprétation. Il y a une qualité là de attention, de présence qui précède ce que je me dis, la description, l'interprétation. Et donc, ceci, on peut commencer à le découvrir. Et vraiment, tout le sens de notre démarche ici est de pouvoir concrètement ressentir cette terre enrichie des vécus. Potentiel de découverte. Pourquoi c'est si enrichissant? C'est parce que c'est vivant. Alors que les concepts, on l'a déjà dit aussi, ils sont très stables et ils n'ont pas de vie en eux-mêmes, ces concepts. Donc ce potentiel de découverte peut amener, en tout cas pour ma part, par moment, et quand je suis un petit peu présente et que je suis à l'extérieur, là, j'ai un plaisir d'être en contact avec ces petits lézards. Et ça me rappelle en fait mon enfance quand j'ai vécu en Afrique, où il y avait des petits lézards, mais il y avait aussi des gros lézards, des bêtes bien plus grosses que celles-ci. Et j'ai toujours eu cette extraordinaire relation avec ce type d'être sur un mur, mais ça venait pas du lézard, mais de mon attention extrêmement aiguisée à demeurer intéressée au contact. Et tout à coup, il n'y a plus du tout, quelque part, cette impression d'être Patricia qui observe le lézard, mais de vivre vraiment le vécu et d'être complètement en lien, en phase avec cette expérience d'une façon immensément simple, complètement ordinaire, inhabituelle, parce que l'attention est dépouillée. L'attention est juste l'attention. De cet espace-là, je crois que y a de la réjouissance, comme vous pouvez le remarquer en moi. Et puis, par moments aussi, une composition justement de joie, de légèreté, de spontanéité, d'émerveillement qu'on retrouve. Et j'aime aussi utiliser ce terme d'innocence, l'innocence de l'enfant, justement, qui contemple. Donc, plutôt que le terme de méditation, c'est plus une contemplation. Si on devait utiliser un terme occidental contemporain, je crois que cette dimension de contemplation n'est pas du tout de la passivité, c'est de la présence, mais qui ne cherche pas à obtenir quelque chose, vouloir quelque chose de cette situation. Donc cette attention dépouillée, elle est assez extraordinaire et elle est disponible en toute situation. J'ai un petit livre ici du poète Pessoa. Et lui, il a vraiment cette description qui dit qu'il a lutté avec et contre les pensées. Il était vraiment dans cette interrogation et cette disposition de découverte. Tiens, qu'est-ce qui se passe au contact de ces pensées? Et il dit, c'est mon interprétation, mais en gros, il dit, ces pensées, elles peuvent être emprisonnantes comme elles peuvent être moyens de libération, c'est-à-dire nous emmener tout droit vers la libération. Elles donnent, il dit, la joie de comprendre. Même en même temps, elles soustraient la fraîcheur à la vie. Elles donnent la capacité de comprendre, mais en même temps, elles soustraient la fraîcheur à la vie. C'est exactement ce que je tente de vous transmettre. Soustraire la fraîcheur à la vie, c'est quelque part beaucoup plus complexe. Si je commence à décrire le lézard, oui, il est vert, et puis voilà, j'en parle, j'ai déjà perdu cette spontanéité de découverte. Et il dit, ne pas savoir sur soi-même, c'est vivre. Se connaître mal soi-même, c'est penser. Donc vous voyez, c'est tout ce qu'on rajoute quelque part, dans le sens de devoir se connaître plus, mieux. Donc bien sûr que ça fait partie de l'existence, mais en même temps, il y a aussi cette possibilité d'authenticité, de spontanéité qui précède cette manière d'être avec soi-même. Et je vais vous lire un tout petit passage du poème. Je suis un gardeur de troupeau. Je suis un gardeur de troupeau. Mon troupeau, ce sont mes pensées. Et mes pensées sont toutes des sensations. Je pense avec les yeux et avec les oreilles, avec les mains et les pieds, avec le nez et la bouche. Il dit, penser une fleur, c'est voir. C'est la voir et la sentir. Manger un fruit, c'est en savourer le goût. C'est pourquoi, par un jour de chaleur, si tant de jouissance me rend triste, je m'étends de tout mon long sur l'herbe, je ferme mes yeux chauds, je sens tout mon corps étendu sur la réalité. Je sais, je connais la réalité et je suis tout simplement heureux. Donc ce poème s'intitule « Le gardeur de troupeaux ». Et ça a vraiment la coloration de ce qu'on explore ici, non ? Vous trouvez pas ? Par moment, il y a naturellement cette possibilité, ce potentiel de découverte de la vie dans son entièreté, sa totalité. Savourer un fruit, ces pêches sont délicieuses cette année, je trouve. Vraiment, waouh ! Tant de jouissance. Donc on cultive cette qualité de sati, cette attention dépouillée, et en réalité, il y a un cheminement. Il y a un cheminement. Le cheminement, c'est quelque part décomposé, et c'est ma manière de l'exprimer, à trois niveaux. Un niveau, c'est l'intention. Cette intention de pouvoir choisir de demeurer au contact plutôt que de s'égarer, se perdre dans nos habitudes. Donc là, il y a une intention. Intention de cultiver la qualité de présence, quelle que soit la situation, demeurer au contact. Donc c'est le mouvement inverse de la déconnexion. Combien on connaît la déconnexion, hein ? Nous, ben voilà, on se déconnecte. Et ici, c'est vraiment rester dans une certaine perspective de demeurer à proximité, intention. Ensuite, l'attention, deuxième niveau, c'est la découverte de ce qu'on découvre au contact de cette expérience. C'est qu'est-ce que me révèle l'expérience présente. Attention dépouillée. Sentir une sensation comme sensation. Un goût comme goût. Non pas y penser, pas devoir le nommer, mais vraiment dans cette dimension de pouvoir découvrir notre lieu de vie, une présence incarnée dans la chair. Troisième niveau, c'est l'attitude. Et cette attitude, on peut constamment la renouveler. Et l'attitude, elle est vraiment aidante, dans le sens de l'attitude d'être curieux, curieuse. Et surtout, je dirais, mais vraiment, je pense que là, si vous écrivez, vous pouvez souligner les choses là en trois fois, c'est ne pas tenter d'évaluer. Une attitude qui évalue constamment ce qui se passe se désoriente, se décourage, est en train de juger. Ah, encore des pensées. Non, oh waouh, une nouvelle pensée. Bienvenue la nouvelle pensée. Vous voyez l'attitude, combien elle colore. Donc c'est extraordinaire comment on peut créer un paysage intérieur favorable ou non. Mais l'attitude va naturellement nous aider dans ce sens. Donc elle est emplie de curiosité, de non-jugement. Et très souvent, dans les cercles de méditation, on parle d'une attention non-jugeante. C'est ceci, dans le sens de ne pas devoir constamment évaluer, juger, dire quelque chose au sujet de ce qui se passe. Et puis, naturellement, réagir. Donc là, il y a un soutien. Et cette attention, eh bien, c'est exactement ce qu'a dit Sandrine il y a quelques soirs. Elle est emplie de sagesse. C'est-à-dire qu'il y a du discernement et une qualité de lucidité. La clarté, elle provient de notre envie d'y voir clair. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe véritablement ? Quelle est l'expérience présente ? Et donc là, c'est dans cette proximité, dans ce contact véritable avec comment les sensations se présentent, comment est-ce de respirer cette respiration-ci ? Pas celle d'il y a 5 minutes, ni celle qui va émerger dans 5 minutes, la vivre pleinement. Donc intention, attention et attitude sont trois niveaux qui naturellement sont totalement interdépendants. C'est pas « ah oui, intention, puis ensuite attention, et puis attitude ». C'est vraiment pas linéaire, ça c'est quelque part une belle composition qu'on peut développer et qu'on découvre. Et ça modifie à ce moment-là notre comportement par rapport à ce qui se passe. Car on peut aussi éclairer notre comportement. Comment est-ce que je suis en lien avec ce qui se passe. Comme on dit souvent, l'attitude de l'état du méditant. L'état d'esprit du méditant, quel est-il? Donc cette attention, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ingrédients qui sont naturellement ajoutés. Attention dépouillée, claire, lucide, et j'aimerais aussi ajouter emplie de soin. Parce que cette dimension de metta, de bienveillance, eh bien, elle permet un accueil. Et c'est une qualité qui est tout à fait heureuse, favorable. Un esprit bienveillant est un esprit qui naturellement va dans le sens d'une protection. Donc, on va dire qu'un bon criminel, ben, il doit être attentif en quelque sorte. Hein. Voilà, il planifie, et Dieu sait s'il y en a. J'adore raconter l'histoire qu'un jour j'habitais dans un appartement prêté, et que tout en quand j'entends la serrure qui s'ouvre, une heure un peu inhabituelle, je guigne de ma porte d'entrée. Je n'avais pas vraiment de conscience là, je me suis dit bon, je guigne, je regarde. Et puis effectivement, il y avait un voleur qui tentait d'ouvrir la porte de ma voisine de palier, du moment, pas chez moi où j'habitais, mais ouah, il a filé, je peux vous dire, le fait même que je sorte la tête de la porte, je dis, oula, ben voilà, une attention qui provient naturellement d'une personne qui va agir d'une sorte qui n'est pas tout à fait heureuse, donc l'attention là, elle est extrêmement claire, mais il n'y a pas cette dimension d'aller dans le sens du bien. De nourrir quelque chose de sage. Vous voyez, donc le terme attention, il est vraiment trop limité pour quelque part exprimer ce qu'on cultive ici. Il y a des degrés de développement de cette attention. Et c'est important d'en tenir compte. Maintenant, dans l'enseignement, on dit qu'il y a plusieurs fonctions. Et je veux juste les nommer ici, les quatre fonctions qu'a l'attention telle qu'on les cultive ici, sati, donc reconnaître, prendre conscience, se rappeler, se remémorer, déjà c'est extraordinaire, reconnaître, tiens, qu'est-ce qui est l'expérience présente, passer de l'extérieur de soi à ce qui est vécu intérieurement, ce qui est éprouvé, ressenti. Ensuite, la deuxième fonction, c'est cette fonction de protection. Elle est immensément importante. Est-ce vertueux? Est-ce bénéfique? Se poser la question. Je sais que par exemple, moi, il y a des aliments que je ne mange pas parce que mon corps ne les supporte pas, tout simplement. Je suis sûre que tout le monde ici a un aliment qui ne lui convient pas. C'est pas que j'ai décidé, mais c'est que quelque part, bah, chaque fois que je le mange, et puis c'est pas en une fois que je m'en rends compte, mais au fil du temps, je me dis waouh, ouais, voilà, pas judicieux. Bah, protéger son corps, ne pas le manger, laisser passer le plat, pas de problème. Mais on peut protéger son esprit exactement de la même manière. Vous voyez? C'est tellement important de pouvoir, quelque part, se rendre compte de comment on est en présence de son esprit et comment on peut le protéger dans le sens que si on se laisse aller à des jugements, à de l'autocritique, à vraiment nourrir, alimenter constamment ces états mentaux qui sont naturellement douloureux, déjà sentir la douleur, non bénéfique, c'est exactement ceci qui est appelé, eh bien, ça va aller dans un sens inverse de la libération. Donc on peut protéger son corps, protéger son esprit. Et là, il y a vraiment une fonction de sati. Protéger son esprit, l'emplir de metta, par exemple, c'est le protéger. Nourrir metta, la compassion s'il y a de la douleur. Troisième possibilité, c'est cette fonction d'investigation. Donc Sandrine en a beaucoup parlé, Je ne vais pas revenir beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment ce discernement quand on a par exemple des douleurs physiques ici dans cette salle, que tout est calme, tout est tranquille, on n'ose pas bouger. Est-ce que c'est judicieux de ne pas bouger? Non. Il faut bouger si on a vraiment des douleurs importantes. Ah, j'ose pas bouger, j'ose pas respirer même. C'est tellement calme. Waouh! L'idée là, c'est vraiment, ok, est-ce que je bouge ou je ne bouge pas? J'ai un discernement. Et je ressens le soulagement et je me donne l'opportunité de me rendre compte que bah, c'est une bonne chose, c'est heureux. Donc protection et introspection, investigation, introspection, vont de pair. Je bouge, j'investigue, naturellement qu'il y a ici un soulagement et je sens que j'ai protégé et j'investigue. Et je vois que cette qualité de conscience qui peut prendre une nouvelle respiration au niveau corporel, eh ben je peux l'accueillir. Il y a plein de choses au niveau de notre comportement. On peut aussi se rendre compte, je ne sais pas vous, mais c'est évident que je dors moins. Il y a de la chaleur, hein, je dors moins, voilà. Peut-être que vous aussi. Donc le sommeil, ben on se dit, ouais, j'ai pas assez d'heures de sommeil. Il est abrégé, effectivement. C'est pas rare en retraite d'avoir des rêves aussi qui sont assez intenses parce qu'on est beaucoup plus proche de nous-mêmes. Donc naturellement, il y a aussi toute cette dimension beaucoup plus, quelque part profonde, qu'on peut appeler subconscient, qui émerge, qui fait qu'il y a des réajustements dans cet être. Et d'être en accueil, d'accepter ceci plutôt que de ruminer, s'inquiéter, se rebeller en disant « mais j'ai pas mon nombre d'heures, ça va pas aller, demain matin je serai fatiguée ». Et de se rendre compte que par déduction, là, finalement, on retrouve le sens de la réflexion par déduction, et ça s'appelle vipassana par inférence, où on en déduit quelque chose, on comprend quelque chose de la situation. On l'a vécu intuitivement, puis ensuite on a l'usage de la réflexion. C'est ok peut-être de ne pas autant dormir. Et même si je me sens fatiguée, il y a l'espace de faire une sieste. Il y a la liberté ici de pouvoir quelque part prendre un peu de temps de repos à un autre moment. Donc ce vipassana par inférence, c'est un temps de réflexion. On comprend quelque chose intuitivement, puis ensuite on recadre sa compréhension. Où j'ai vécu quelque chose au niveau d'une émotion, et puis naturellement, je découvre à un moment donné que j'ai peut-être pas besoin de constamment me maintenir à distance d'une émotion. Waouh, ok, j'ai lutté, je suis constamment à distance de cette émotion. Tout à coup, il y a une capacité, une attention qui est un petit peu plus stable et je m'en approche. Ah, comment est cette émotion? Tiens, avant, je ne voulais même pas savoir. Et là, waouh, ouais, comment c'est? Quelque part, l'inquiétude, la peur ou autre. Et puis, je remarque qu'il y a une capacité de pouvoir être en présence, plus de discernement. Et quelque part, je comprends que c'est possible d'être en présence de ceci. Alors qu'il y a un moment donné, peut-être que dans la retraite, on ne pouvait pas. Donc, on voit bien que toutes ces qualités qu'on développe, eh bien, modifient notre comportement et notre manière de pouvoir être en présence et va dans le sens de la liberté. Donc, par moments, on ressent, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais un moment de plus de compréhension, de fluidité. Il y a des prises de conscience. Ces prises de conscience en anglais qui s'intitulent insight sont vraiment immensément importantes, même si elles nous paraissent toutes petites. Mais c'est des bribes de compréhension qui disent « waouh, peut-être que je comprends quelque chose que je peux ensuite, quelque part, traduire dans ma vie de tous les jours ». Vipassana par inférence, c'est-à-dire qu'on en déduit quelque chose. Et là, il y a du raisonnement, il y a du cognitif. Peut-être que je resitue ma compréhension et que je recadre un petit peu. Donc on ne reste pas dans une certaine confusion ou se perdre dans les complications inutiles. Là, c'est vraiment des temps de réflexion choisie, et ça n'a rien à voir avec les ruminations, ça n'a rien à voir avec les ressassements, c'est un éclairage. Un éclairage au niveau de comment je comprends les choses. Donc vous voyez qu'il y a tout un cheminement là. On comprend certainement qu'au contact du plaisant, eh bien, si on s'y attache, on souffre. Vous avez compris ça, je pense. Hein? Au contact du déplaisant, s'il y a de l'aversion, on souffre. Voilà, donc ça, vraiment, principalement, c'est ce qu'on découvre les uns et les autres en cheminant. À chaque fois qu'il y a quelque part un agrippement, soit sous la forme d'un attachement à vouloir garder une expérience, peut-être que vous avez eu ici une expérience à un moment donné vraiment assez sympa, hein, un peu de calme, autre et tout. Ah, j'aimerais tellement retrouver cette expérience. Là, il y a de l'agrippement, c'est évident que ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir. Donc vouloir reproduire, bah, ça crée quelque part un agrippement, c'est douloureux. Donc une des manières de nous situer et puis de comprendre ce qui se passe là, c'est d'écouter cette petite voix qui dit « Ah, mais si seulement il y avait !» Le « si seulement », soulignez-le. « Si seulement il y avait !»« Si seulement il y avait !» ou « si seulement il n'y avait pas !» si c'est désagréable. C'est des formulations qu'on se dit, mais qu'on n'écoute pas vraiment. Donc là, le fait de les écouter, ça nous permet de repérer, tiens, il y a du récit, mais ce récit, il a du sens. Je voudrais autre chose. Ou, je ne voudrais pas qu'il y ait ceci. Donc cette petite voix off qui se répète inlassablement, qu'on n'écoute jamais, parce qu'on en a tellement assez d'écouter notre esprit, il y a des moments où c'est tout à fait judicieux d'être à l'écoute du contenu, comme on a pu le dire. Et le Bouddha dit ceci, aussi longtemps qu'il y a l'alimentation de l'attachement au plaisant et l'aversion au déplaisant, tout simplement, la libération est impossible. Aussi longtemps qu'il y a l'agrippement au plaisant et l'aversion au déplaisant, la libération est impossible. Qu'est-ce que c'est ? C'est de la saisie. C'est tout simplement ce qu'on nomme, nous, la saisie. C'est-à-dire, quelque part, vouloir tenir. Donc l'invitation, c'est encore et encore, à chaque expérience, au contact de chaque émergence, se rendre compte de ce qui se passe, sans se préoccuper de trop de ce qui se passe. Préoccuper par rapport à un résultat. Et c'est là la trappe. C'est que s'il y a un attachement à vouloir quelque chose de précis, c'est-à-dire un état particulier, eh bien là, on a naturellement le piège. Donc les hauts et les bas, ben, ils sont normaux. Hein. Je pense que vous avez eu quelques hauts, peut-être beaucoup de bas. J'espère pour vous autant de hauts que de bas. Il y en aura encore. Les hauts et les bas, ben, c'est des doutes. Hein. Des doutes. Des doutes, ça peut être, mais qu'est-ce que je fais ici ? Voilà. Et naturellement, que lorsqu'on est dans une disposition où on écoute ce doute et qu'on prend ce doute comme du doute et que ce n'est pas la vérité, à ce moment-là, on peut aussi se poser la question, mais qu'est-ce que j'apprends de cette situation ? Et c'est ça le point. Qu'est-ce que j'apprends au contact des hauts et des bas ? Comment est-ce que je peux intégrer ce que j'apprends ? À chaque rencontre avec un maître de méditation en Birmanie, chaque rencontre, lors d'un entretien, il posait la même question aux personnes qu'il rencontrait et qui venaient forcément décrire leur processus. Il leur demandait « Comment était votre méditation ?» Puis forcément, les gens disent « Elle était bonne, elle n'était pas bonne. » C'est ce qu'on dit, non ? Une assise. « Ah ouais, elle était bien celle-ci. »« Ah non, celle-ci, elle n'était pas bien. » Puis on commence à comparer. Voilà, ouais. Hein ? C'est comme ça qu'on juge. Puis il disait « Mais bien, pas bien, ça n'a absolument aucune importance. Posez-vous une question qui est relative au processus et au cheminement. Posez-vous la question « pas bien » ou « pas bien ». Posez-vous la question « qu'est-ce que j'ai appris dans cette assise ? Qu'est-ce que j'ai appris ? » Qu'est-ce que j'ai découvert? Il y a toujours quelque chose à découvrir. Qu'est-ce que j'ai appris? Et c'est tellement simple, mais c'est une toute autre manière de pouvoir quelque part être en interrogation. Donc cette évaluation bien, pas bien, dans la méditation, n'a aucune importance. Bien sûr qu'on est là, la petite phrase, oui c'était bien, c'était pas bien, oui, voilà, tout ce qu'on se dit. Donc aller plus profondément en disant, bah, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui s'est passé là? Et c'est à nouveau cette dimension de développer notre compréhension, compréhension intuitive. Qu'est-ce que j'apprends? Voilà une anecdote heureuse provenant d'une méditante avec laquelle j'ai partagé un petit moment hier. Une de vous m'a partagé lors d'un entretien qu'elle s'était perdue dans la forêt. Apparemment, il y a des panneaux dans la forêt, bien plus loin que ce chemin que je connais, qui n'est pas si loin que ça. Et donc, ces panneaux, faits par l'ami peintre, là, à côté, le voisin, avec des jolis petits textes, hein. On peut les lire. Et puis, elle a regardé l'heure, et puis elle s'est dit, oulala, là là, ouais, je ne vais pas être à temps, rentrer à temps pour l'assise. Et elle était vraiment présente, prendre dans la situation telle qu'elle. Et le texte qu'elle a lu, alors qu'elle était perdue, sur le panneau qui était tout proche d'elle, dit ceci. En tout cas, c'est ce que je m'en souviens. Celui qui n'a nulle part où aller ne peut pas perdre son chemin. C'est merveilleux comme message. Merveilleux comme message. Il y a dans ce message l'expression de tout le dharma. Pouvoir accueillir la vie dans sa totalité. Celui qui n'a nulle part où aller ne peut pas perdre son chemin. On est là où on est. On vit la vie là où on est. À chaque instant, aujourd'hui. Là où vous irez demain, là où vous êtes. Chaque instant, un souffle de vie. Voilà, donc je vais terminer avec un petit poème de Dana Folds qui s'appelle « Souffle de vie ». J'inspire tout ce qui est. La conscience s'élargit pour tout accueillir. Comme si mon cœur battait le monde en existence. Depuis l'immensité, sans nom, sous le mental, je respire vers l'unité et la guérison. Inspiration, expiration. Chaque souffle est un oui, un lâcher-prise, un voyage, un retour à la maison en moi-même.